Bonjour et bienvenue dans Parlons Ferme. Aujourd'hui, nous rencontrons Jean-Jacques Hervé. Nous l'avons nous-mêmes rencontré en personne lors d'une mission de l'Institut Jean Garon en Normandie en 2022. Il est fin connaisseur de l'Ukraine et de la Russie pour y avoir tenu des rôles de diplomate dans les deux pays. Il est aussi président honoraire de l'Académie d'agriculture de France. Il est avec nous dans Parlons Ferme pour comprendre la situation entre ces deux pays, la Russie et l'Ukraine, après 3 ans de guerre. À l'heure où les États-Unis et la Russie se reparlent et changent la géopolitique mondiale pour les prochaines décennies. Alors, Monsieur Hervé, bonjour. On s'est reparlé déjà dans les dernières semaines parce que ceux qui ont suivi le site de la Vie Agricole, il y a déjà eu une entrevue à laquelle vous avez répondu par écrit et qu'on a diffusée il y a quelques semaines. Mais on avait convenu de se parler, puis de toute façon, l'actualité évolue tellement vite qu'on savait très bien que quand on se parlerait, il y aurait déjà des évolutions dans la géopolitique. On va commencer tout de suite, Monsieur Hervé, pour d'abord nous expliquer comment vous jugez, vous, ce qu'on entend depuis le retour de Trump au pouvoir, entre les discussions diplomatiques qui se passent entre les États-Unis et la Russie. C'est quoi votre lecture ?
Bon, ma lecture, elle est compliquée parce que c'est extrêmement nouveau ce qui se passe. Et il y a, d'une part, je crois, quelque chose qui n'est pas assez souligné par les politologues habituels, c'est que Poutine reçoit, par l'intérêt que lui accorde le président des États-Unis, une sorte de consécration inattendue. Voilà. Je me rappelle, on a tous le souvenir, même si on était jeunes à l'époque, du voyage historique de Khrushchev en Russie, aux États-Unis, qui pensait qu'il ferait de la Russie le plus grand producteur mondial de maïs, qu'il égalerait les États-Unis. Et là, d'une certaine manière, bon, ça ne s'est pas fait, mais d'une certaine manière, la Russie prend place maintenant dans le marché mondial des matières premières agricoles, et le soin que Trump met à discuter avec Poutine, c'est la reconnaissance du pouvoir de Poutine. Et donc ça, c'est ma première vision. La deuxième vision, c'est que manifestement, le président Trump se tape de tous les accords internationaux, du droit international. Il passe par-dessus la tête de l'Europe, il passe par-dessus la tête du Canada, il passe par-dessus la tête du Groenland. Voilà, il a une vision extrêmement, j'allais dire, des sudistes américains, quoi. Hein. On conquiert.
Mais vous disiez dans l'entrevue à laquelle vous aviez répondu par écrit il y a quelques semaines, que peut-être la lecture vous pouviez faire, parce que Trump fait certainement ça pour quelque chose, et vous disiez peut-être qu'il le fait parce qu'il cherche à éloigner la Russie de la Chine. Est-ce que c'est sa stratégie ? Est-ce que c'est une bonne stratégie, si t'en est une ?
Bon, je ne sais pas exactement, au fond, parce que, en effet, on peut penser que, en mettant un coin de cette manière dans le triangle Moscou-Pékin-Téhéran, les États-Unis vont essayer de diminuer l'influence de Pékin, l'influence de la Chine, et peut-être calmer les ardeurs de l'Iran vis-à-vis du Moyen-Orient, plus largement, de l'Occident. Je ne sais pas si ça va résister au fait. Cette vision, parce que finalement, l'impression que donne aujourd'hui Trump, surtout après ses décisions fracassantes sur les droits de douane, c'est qu'il est une sorte d'apprenti sorcier qui semble avoir des lubies et qui les exprime avec force et détermination.
D'ailleurs, sur les droits de douane, est-ce que c'est pas un peu le monde à l'envers ? Parce que Trump, il est quand même à la tête des Républicains. Les Républicains, c'est l'esprit Reagan, c'est l'esprit libre-échange. On est à l'opposé total de ce qu'est la philosophie des Républicains.
Absolument, c'est saisissant pour un Européen de voir un Américain. Enfin, en fait, moi, je vois Trump de plus en plus comme un agent immobilier qui a très bien réussi. Mais un agent immobilier, pour moi, c'est pas un entrepreneur comme les autres. C'est pas un entrepreneur qui a une production propre, qui a une production agricole, une production industrielle, une qu'elle soit d'extraction ou qu'elle soit de transformation. C'est quelqu'un qui est essentiellement dans du négoce. j'achète de l'immobilier le moins cher possible, je le revends le plus cher possible et je fais fortune. C'est une vision extrêmement réductrice de l'activité économique.
Mmh. Si on revient à l'Europe, on sait que la relation Europe et Russie est très importante, notamment vis-à-vis de l'énergie pour l'Europe. Comment l'Europe sortira de cette impasse, en fait ?
Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Je constate que la Russie de M. Poutine, grâce à l'engagement incroyable du président de Rosneft, le principal producteur d'hydrocarbures de Russie, s'est traduite par l'achat de 600 navires gaziers, pétroliers, transporteurs d'hydrocarbures d'une façon générale, qui sillonnent le monde et utilisent l'astuce des règlements douaniers qui distinguent l'origine, gaz russe, de la provenance. Gaz provenant de l'Inde ou de l'un des pays dont les drapeaux sont ceux de l'enregistrement de ces navires, de ces 600 navires. Et ça représente une dépense pour l'Europe considérable. Et je trouve qu'on oublie de dire quelque chose qui pour moi est vraiment extrêmement évident. L'Allemagne avait fait le choix de reposer toute l'énergie de son pays sur le gaz russe. Beaucoup plus que la France, qui, grand héritière du grand gaullisme, avait donné l'impulsion au nucléaire et avait diversifié ses sources d'approvisionnement en hydrocarbures. L'Allemagne avait misé sur le gaz russe à travers des pipelines continentaux qui traversent l'Ukraine, la Pologne, etc., et des pipelines nouveaux de la mer Baltique, la mer du Nord. Et ceux-là, maintenant, sont hors d'usage. Or, ils assuraient plus de 80%, entre 70 et 80% de la livraison de gaz pour l'économie russe. Pour l'économie allemande. Et comment peut-on imaginer que l'Allemagne puisse se passer de ce gaz instantanément ? Bien sûr que non. Et donc, le gaz russe qui est vendu par des bateaux qui n'originent plus le gaz comme russe, permettre à l'Union européenne, avec beaucoup d'hypocrisie, de dire « nous n'achetons plus de gaz russe », mais quand même, de couvrir les besoins de l'économie allemande. Il semble que ça représente plusieurs milliards d'euros par jour, ces achats.
Quand vous nous dites ça, vous nous dites en fait que l'Allemagne ne pourra pas se passer de l'énergie russe, l'Europe ne pourra pas se passer de l'énergie russe, et en même temps, même si au début de la guerre, le président Macron a essayé de faire une sorte de diplomatie, on se rappelle quand on le voyait au bout de la table, à l'autre bout de la table de Poutine, il y a eu des essais, mais il n'y a plus de discussion entre l'Europe et la Russie. Vous qui avez été à la fois en diplomatie en Russie, diplomatie en Ukraine, est-ce que la France a échappé quelque chose dans sa diplomatie à ne plus échanger ?
Je ne pense pas. Je pense que l'Europe est face à un de ses problèmes. C'est que l'Europe n'est pas autonome sur le plan énergétique et qu'elle a fait, de fait, sous l'influence dominante de l'Allemagne, le choix du gaz russe. Aujourd'hui, la décision que devrait prendre l'Europe, c'est de ne plus acheter de gaz russe. De ne plus l'acheter, qu'il soit d'origine ou de provenance. Et donc, de chercher le plus vite possible, des revirements dans ses achats. Acheter plus de gaz à l'Amérique du Nord, Canada, aux Amériques, peut-être plus de gaz à l'Algérie, plus de gaz à la Libye, plus de gaz à la Norvège, et puis engager de façon vraiment résolue un programme de réduction drastique de la consommation d'hydrocarbures. Il y a un moment où l'Europe va devoir se poser la question. Est-elle sincère lorsqu'elle souligne l'importance du volet climatique dans la préservation du climat ?
Mais quand vous dites en fait que l'Europe ne doit plus acheter en fait de gaz russe, vous mettez en avant le fait que tout ça s'est fait sous l'influence de l'Allemagne. Je vous ai parlé l'autre jour du livre de Catherine Belton, la journaliste qui expliquait que le livre qui s'appelle « Les hommes de Poutine, comment le KGB s'est emparé de la Russie avant de s'attaquer à l'Ouest ». Elle explique dans ce livre-là que finalement tout le monde est coupable, pas seulement les gouvernements, les banques aussi. Elle explique que les banques européennes, que ce soit au Luxembourg, que ce soit à Londres, que ce soit à Berlin, que tout le monde a fermé les yeux et a laissé les Russes entrer dans l'Ouest en fait avec de l'argent sale, dis-moi.
Absolument. La Baird, la BEI, etc., toutes ces banques, les grandes banques nationales, ont accepté cette espèce de statut particulier, se disant, n'entrevoyant pas, sans doute, la position extraordinairement agressive de la Russie poutinienne.
Quand on ramène ça à la situation actuelle de Trump, parce qu'en plus dans ce livre-là, il dit aussi que déjà dans les années 90, quand Trump était à la tête du Taj Mahal, en fait, en casino, que plusieurs financements sont venus par le KGB ou des fonds russes. En tout cas, elle explique ça par des fonds russes. Elle note même des gens. Elle a des rencontres avec un certain Jiří Žilinský qui lui dit « Oui, j'étais présent, j'ai assisté, etc. » On a l'impression que la mécanique que Poutine a pris pour mettre son oligarchie au pouvoir à Moscou, est-ce que Trump est en train de faire la même chose aux États-Unis finalement ? De faire un copier-coller ?
Il est clair que dans tous les pays de l'ex-URSS, quels qu'ils soient, que ce soit l'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan ou tous les autres, les hommes d'affaires qui ont des projets industriels, de développement, qui vont gagner de l'argent, ne laissent pas leur argent dans leur pays. Ils ne le laissent pas. Ils n'ont pas confiance, d'une certaine manière, dans les structures de leur pays. Et donc, ils ont mis leur argent, c'est un secret de Polichinelle, l'essentiel de l'argent russe, et sur les marchés internationaux, cet argent, il est à Chypre, en particulier, dans toutes sortes de banques, et il y a toutes les banques mondiales présentes à Chypre pour gérer tout ça. Et donc, on assiste à une espèce de domino qui a monté de fait, l'économie russe, l'économie financière russe, pour préserver ses ressources capitalistiques, pour ne pas se faire voler par le pouvoir. Donc il y a eu un gentleman agreement entre Poutine et les oligarques qui sont les siens. Et ça a coûté la vie à plusieurs oligarques qui étaient ceux de Yeltsin auparavant.
Mais est-ce que cette recette-là est la même recette que Trump essaie d'appliquer avec ses propres oligarques ?
Je ne sais pas dire là, je ne sais pas, vous êtes mieux placé que moi depuis le continent américain pour juger ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes, oui.
Quand on revient en fait à l'agriculture européenne et canadienne, on a vu que Zelensky pendant un temps a comme négocié ses terres rares avec les États-Unis. En fait, c'est encore un peu en négociation, mais en fait on comprend que le grenier agricole de l'Europe, il se situe là, en Ukraine. Au final, vous, votre lecture, l'impact pour l'agriculture européenne et canadienne, elle se situe où ? L'impact, ça va finir comment ?
Écoutez, ce qui, moi, me frappe, c'est que la Russie a compris que le secteur agricole qu'elle considérait comme un premier ministre dans les années 90 ou 95, même 2000, appelé le trou noir de l'économie du russe, est en fait un secteur qui se développe. Qui se développe prodigieusement. Alors, est-ce que c'est aussi bénéfique pour la Russie que lorsqu'elle aborde des acheteurs plus riches, occidentaux, non, il empêche que la Russie gagne des parts de marché un peu partout dans le monde, en Afrique, en Chine, en Asie, et qu'elle construit une stratégie. Elle a deux avantages, elle a un immense territoire. Quand on songe que la Russie, sur ses 220 millions d'hectares de terres actuellement cultivées, produit en gros 100 millions de tonnes de grains, c'est pas grand-chose par rapport à l'Ukraine qui a 40 millions d'hectares au total agricoles et qui produit aussi 100 millions de tonnes de grains, dont 60 à l'exportation. Donc il y a une sous-efficacité dont les Russes se sont rendus compte et les entrepreneurs russes sont en train de travailler à d'arrache-pied pour augmenter leur productivité. Ils vont passer des accords avec la Chine, certainement, sur toutes sortes de choses, sur la génétique par exemple. Ils ont l'eau en abondance, ils ont l'énergie en abondance et ils ont les engrais parce qu'ils ont le pétrole. Et avec ça, ils peuvent faire des engrais, autant qu'ils veulent. L'azote, personne n'en manque sur la planète. C'est le principal composant de notre atmosphère. Les 4/5 de ce que nous respirons, c'est de l'azote. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, peut-être que c'est un rêve idiot, prématuré, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à la portée des travaux de ce savant ukrainien que l'Institut Pasteur avait accueilli en France au début du XXe siècle pour créer le premier laboratoire de microbiologie des sols où il a explicité les mécanismes microbiens qui permettent de pomper l'azote de l'atmosphère, de le rendre dans les sols, disponible à la fois en stockage et en aliment pour les plantes. Et donc je me dis que peut-être il y aurait une voie nouvelle de la production d'engrais qui ne passerait pas par la synthèse de l'ammoniac, mais qui passerait par des solutions microbiologiques. Je crois aux biotechnologies. Je pense qu'elles portent dans plein de sujets, je suis frappé par la portée des biotechnologies, tant pour la santé des plantes, tant que pour leur alimentation. Alors peut-être qu'il faut qu'on se réveille et qu'on se dise au Canada, en Europe, et si nous travaillions ensemble pour renouveler cette industrie des engrais.
Donc vous gardez un espoir de répondre, parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que la guerre en Ukraine est aussi une guerre d'alimentation du monde, mais que...
Bien sûr, et la Russie ne fera pas de cadeau.
Mais que les solutions sont dans le progrès et dans la science, en fait.
Je pense que les solutions sont dans le courage d'une vision européenne différente, et à laquelle je crois pouvoir associer, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, avec les déclarations de votre Premier ministre Trudeau avant qu'il ne donne sa démission, je crois que le Canada se sent plus européen qu'américain États-Unis.
En ce moment, effectivement.
J'ai l'impression que là, nous aurions un sujet à traiter ensemble, un sujet vraiment stratégique de développement industriel sur les biotechnologies appliquées notamment à la production agricole. Parce que ça reste un sujet majeur et parce qu'on ne peut pas continuer d'avoir des processus de distribution de l'alimentation qui génèrent autant de problèmes. C'est peut-être le président de l'Académie qui parle là, mais c'est vrai que la question des microplastiques, la question des emballages, la question du coût écologique de toute cette production ne peut pas être oubliée.
Monsieur Hervé, on vous remercie beaucoup. Toujours très intéressant de vous avoir avec nous. À très bientôt.
Écoutez, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous. Vous êtes mes amis. À très bientôt.